Imaginez un instant la situation. Gagner à la plus grande loterie de toute l'histoire.
Le rêve ultime, quoi.
Ouais. Sauf que le prix, c'est pas seulement une fortune incalculable. C'est la promesse d'une nation entière et la bénédiction ultime du divin, carrément.
Ah oui, on est sur des enjeux majeurs.
Exactement. Mais à la seconde précise où le ticket gagnant est validé, eh ben la conséquence immédiate, c'est devoir fuir dans un désert hostile.
Et courir pour sauver sa peau.
Absolument. Avec une prime sur la tête placée là par son propre frère jumeau. C'est vraiment le paradoxe absolu. Avoir le monde entier sur le papier et se retrouver avec absolument rien dans la réalité.
C'est d'une ironie féroce. Et en fait, c'est précisément ce grand écart entre la promesse qui est garantie et le désastre total du moment présent qui rend ces récits antiques si riches.
C'est clair que ça change de nos histoires habituelles.
Ouais, parce que d'habitude, quand on parle d'héritage, on imagine un truc très procédural, hein. Un notaire, un bout de papier signé, des règles nettes.
Un truc carré, quoi.
Voilà. Mais là, dès qu'on plonge dans ces textes anciens, cette clarté vole en éclats. La machine s'enraye complètement et on navigue en plein cœur d'une dysfonction familiale assez toxique.
Et c'est exactement la mission de notre exploration aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. Extraire les pépites de sagesse de ce chaos. On va analyser cette célèbre histoire de tromperie familiale, suivie d'un rêve complètement mystérieux qui, à mine de rien, redéfinit une grande partie de l'histoire spirituelle.
C'est un point de bascule majeur.
Tout à fait. Et pour ça, on s'appuie sur l'excellente analyse du docteur Kenneth Massouz sur le livre de la Genèse, plus particulièrement sur la fuite de Jacob et son rêve à Bethel. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment la manipulation humaine entre en collision avec une grâce divine qui nous dépasse totalement.
Et il y a une tension constante ici, hein. D'un côté, on a ce besoin viscéral, très humain, de vouloir tout contrôler.
De forcer le destin.
C'est ça. Et de l'autre, on a un calendrier divin qui, lui, opère sur une fréquence qui n'a rien à voir. C'est fascinant parce que ça illustre le moment précis où une personne passe de croyances héritées par tradition à une conviction qui devient farouchement personnelle.
Bon, allez, décortiquons tout ça. Parce qu'avant de comprendre pourquoi cet homme se retrouve isolé, vulnérable et mort de peur au milieu de nulle part, il faut vraiment analyser le séisme qu'il a provoqué dans son propre foyer.
Et quel séisme ?
C'est digne des meilleures séries dramatiques sur les familles toxiques, franchement. Tout commence avec une rivalité gémellaire, Ésaü, l'aîné, et Jacob. Et rien que le nom de Jacob annonce déjà la couleur, non ?
Ah, le nom lui-même, c'est une métaphore de son identité première. Jacob, ça signifie trompeur, ou alors celui qui saisit le talon.
Ce qu'il a fait littéralement à sa naissance, d'ailleurs.
Ouais, exactement. Il a agrippé le talon de son frère en sortant du ventre de sa mère, Rebecca. La lutte, en fait, elle avait commencé avant même leur naissance.
C'est fou.
Et cette compétition, elle va culminer avec deux actes de tromperie vraiment dévastateurs. D'abord, Jacob capitalise sur une faiblesse de son frère.
Ah, la fameuse histoire du plat de lentilles.
Voilà. Il lui achète son droit d'aînesse pour un ragoût, juste au moment où Ésaü revient de la chasse et prétend être affamé à en mourir.
C'est déjà de la manipulation purement opportuniste, quoi.
C'est ça.
Mais le deuxième acte est encore plus élaboré, et même carrément cruel. Avec la complicité et même la direction de sa mère, Jacob va voler la bénédiction de son père.
Un père aveugle en plus.
Ouais, il se déguise, il ment effrontément à Isaac, qui est sur son lit de mort, pour se faire passer pour Ésaü. C'est ironique, non? Ces gens sont censés être les porteurs d'une promesse divine. Ils agissent comme des politiciens véreux qui essaieraient de truquer une élection la nuit d'avant. Pourquoi tricher si la promesse est garantie?
Ça soulève une question hyper importante sur la nature humaine. Notre incapacité chronique à faire confiance. Le docteur Matthews souligne bien ça. La famille, elle savait que Jacob était l'élu selon la prophétie.
Rebecca l'avait reçue, cette prophétie, ouais.
Absolument. Mais l'angoisse de voir Isaac bénir Ésaü a été plus forte. La mère et le fils ont pris les choses en main. Ils ont confondu la promesse avec le processus.
Ils pensaient que Dieu avait besoin de leur fraude pour réussir.
Voilà, c'est une prise de contrôle arrogante et le résultat, c'est une fracture familiale irréparable.
Et la réaction d'Ésaü, franchement, elle se fait pas attendre. Elle est volcanique. Quand il réalise qu'il a tout perdu, sa tristesse, elle se transforme direct en complot de meurtre. Il se dit juste « je vais attendre la main de mon père et après je tue Jacob ».
Le texte originel utilise des termes d'une intensité assez terrifiante. C'est pas juste une petite rancune ou une crise de nerfs.
C'est viscéral.
Ouais, c'est une haine vigoureuse, tenace, qui s'enracine. L'ombre de Caïn et Abel plane vraiment sur cette scène. Le premier meurtre biblique, c'était un fratricide lié à la jalousie spirituelle. Et là, le schéma est sur le point de se répéter.
Haïr son frère au point de planifier froidement sa mort, c'est une dynamique qu'on retrouve plus tard d'ailleurs. L'idée que cette haine tenace, c'est déjà un meurtre.
C'est un principe théologique fondamental qui sera développé dans le Nouveau Testament. Si on regarde le serment sur la montagne ou la première épître de Jean au chapitre 3, la logique est implacable.
Jésus considérait ça comme équivalent, c'est ça, hein ?
Exactement. Cultiver une hostilité amère envers quelqu'un, c'est l'équivalent moral du meurtre. En fait, la seule vraie différence entre celui qui hait et celui qui tue, c'est souvent juste la logistique.
Le manque d'opportunité.
Voilà, l'absence d'âme ou la peur de la prison. Mais l'intention destructrice, elle est déjà totalement là dans l'esprit.
Et cette opportunité, c'est pile ce qu'Ésaü attendait avec les funérailles de son père. Face à cette poudrière, on a Rebecca qui intervient à nouveau. Elle apprend les plans de meurtre et doit exfiltrer Jacob. Mais là encore, elle orchestre ça par une manipulation magistrale de son mari.
Toujours dans le contrôle.
Ouais, elle lui dit pas du tout « Écoute, j'ai aidé Jacob à te tromper et maintenant Ésaü veut le tuer ». Pas du tout. Elle utilise un tout autre levier.
Elle instrumentalise une vraie crise culturelle de l'époque, le mariage exogame d'Ésaü.
Avec les femmes hittites.
Avec la foi yaviste. Le texte traduit souvent la réaction de Rebecca par du dégoût, mais le terme originel est beaucoup plus fort. C'est une aversion, une répulsion totale.
Et elle s'en sert comme arme.
Complètement. Elle dit en substance à Isaac, « Si Jacob épouse lui aussi une de ses femmes, ma vie ne vaudra plus rien. »
C'est brillant, mais tellement toxique. Elle force la main d'Isaac en utilisant ses convictions religieuses. Du coup, Isaac accepte d'envoyer Jacob très loin, chez l'oncle Laban, pour trouver une épouse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui, le paradoxe géographique.
Mais oui, attendez, on a Jacob qui vient de risquer sa peau pour la bénédiction qui inclut la possession de cette terre promise. Et la conséquence directe de son vol, c'est qu'il est expulsé de cette même terre pour 2 décennies. C'est comme gagner à la loterie et se faire braquer le ticket sur le parking du magasin.
Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette évolution dramatique des enjeux. Repensons au grand-père, Abraham.
Ouais, lui, il refusait catégoriquement de quitter le pays.
Voilà. Même pour trouver une femme à Isaac, il avait interdit qu'on le fasse sortir de la terre promise. La terre, c'était le centre de l'alliance. Mais là, la dynamique s'inverse totalement. La grande tension pour Jacob, c'est plus la procréation, il aura plein d'enfants en exil, mais c'est la terre. Ses parents le forcent à s'enraciner ailleurs.
C'est fou. Mais juste avant ce départ, il y a ce moment où Isaac bénit Jacob de son plein gré. Il lui ordonne l'endogamie, de ne pas épouser de cananéenne.
Oui, l'endogamie, vitale pour la solidarité de la famille et l'héritage dans ce contexte polythéiste.
Et Isaac utilise un nom très spécifique pour Dieu. Il l'appelle El Shaddai.
Le Dieu Tout-Puissant, c'est la traduction grecque. Bien que le sens hébreu originel reste un peu mystérieux pour les linguistes.
Mais le sens narratif est clair.
Ah oui, c'est le nom de l'alliance révélée à Abraham. Isaac confirme officiellement le transfert de l'héritage, malgré les magouilles de Jacob.
Et pendant ce temps, on a Ésaü. Il voit que ses parents sont ravis du départ de Jacob. Il capte enfin que ses femmes hittites posent problème. Et là, sa réaction. C'est presque triste tellement c'est maladroit.
Ésaü, c'est vraiment l'archétype du gars qui manque de compétences sociales et spirituelles. Il voit le problème, mais il essaye de le régler par un petit ajustement généalogique qui rate totalement la cible.
Il va épouser une fille d'Ismaël.
C'est ça.
Sans qu'Ismaël, c'est justement le fils d'Abraham qui n'a pas été choisi pour l'alliance. Il essaye de réparer la fracture, mais ça change absolument rien.
Il est dans une cécité totale. Mais Rebecca aussi, hein. Elle pensait vraiment que Jacob partirait quelques jours, le temps que la colère d'Ésaü passe.
Des quelques jours qui se transforment en 20 ans d'exil.
Et elle ne le reverra jamais.
C'est le prix de l'illusion du contrôle, ouais. Donc ce chaos total nous propulse avec Jacob sur la route vers Haran. Il se retrouve isolé, dans un environnement hyper hostile. Pas d'escorte, rien.
Et l'anonymat et la solitude écrasante de cet endroit, juste avant que Dieu n'intervienne.
Et on doit vraiment parler de cet oreiller en pierre.
Il prend un rocher pour dormir. Franchement, ça semble non seulement affreusement inconfortable, mais presque punitif. La vulnérabilité absolue.
Et c'est précisément dans ce dénuement total que se produit l'inattendu. Le fameux rêve.
Cette vision de l'échelle, enfin, c'est pas vraiment une petite échelle de bricolage, on est d'accord.
Non, c'est plutôt un grand escalier monumental ou une rampe qui touche le ciel.
Et cette image des anges qui montent et descendent, on a souvent en tête, vous savez, des êtres ailés qui volent dans les nuages. Là, c'est pas ça du tout.
Ce sont des messagers spirituels décrits au masculin qui empruntent des marches comme de simples voyageurs dans une gare céleste.
C'est très ancré dans le visuel de l'époque, oui. Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble du texte, le docteur Matthews fait un lien hyper intéressant. Cet escalier fait intentionnellement écho à la tour de Babel, au chapitre 11 de la Genèse.
Ah, Babel, la fameuse tentative humaine de construire un pont vers le ciel.
Exactement. Et une tentative ratée, qui a mené à la confusion. Mais ici, avec l'escalier de Jacob, c'est l'inverse absolu. C'est la véritable porte de Dieu. L'initiative, elle vient du divin vers l'humain.
C'est Dieu qui descend vers l'homme brisé.
C'est ce qu'on appelle la théologie de la présence. Yahvé se tient au-dessus ou à côté de lui et se présente.
Il fait une série de promesses dingues d'ailleurs. Il promet sa présence protectrice, ce qui est quand même la chose la plus importante pour un fugitif seul au milieu des bandits. Il promet une descendance comme la poussière de la terre et qu'il ramènera Jacob dans ce pays. C'est inconditionnel en fait.
C'est ça la clé. Jacob, il n'a rien fait pour mériter ça. Et pourtant, la rencontre visuelle avec le divin ne le laisse pas indemne.
Tu m'éponnes, il se réveille, il est carrément terrifié.
Il réalise qu'il ignorait que ce lieu anonyme était sacré. Il s'écrit que c'est la maison de Dieu, la porte du ciel.
Et c'est là qu'il érige cette fameuse pierre en monument. Il verse de l'huile dessus, l'une de ses rares ressources précieuses, et il nomme l'endroit Bethel.
L'huile, c'est vraiment le symbole de la richesse et de la présence divine.
Et il formule ce vœu qui pose souvent problème, j'aimerais bien qu'on en parle. Il dit un truc du genre « Si Dieu est avec moi, me protège, me donne à manger et à boire, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond?
Je vois où vous voulez en venir.
Mais ça ressemble étrangement à une négociation commerciale, non? Le trompeur qui essaie de marchander avec le ciel pour avoir sa sécurité.
C'est vrai que ça sonne comme ça en français moderne, mais le docteur Matthews dissipe totalement ce malentendu. Ce n'est pas du tout une condition marchande.
Ah bon? C'est quoi alors?
C'est une déduction de foi. En hébreu, ceci se comprend plutôt comme un « puisque ». Jacob part du principe que Dieu tiendra la parole qu'il vient de lui donner dans le rêve. C'est un acte de dévotion. Il dit en gros « Puisque tu vas faire cela pour moi, je te serai loyal et je te donnerai un dixième de tout. »
Comme la dîme de son grand-père Abraham à Melchizedek. Donc il ne négocie pas, il s'abandonne.
Exactement. Et c'est là le point culminant de notre plongée. Jacob ne dépend plus de la foi de son père ou de son grand-père. Il s'approprie sa foi de manière personnelle.
C'est la transition, le moment où ça devient son Dieu à lui.
Tout à fait. Et ça préfigure même un thème majeur du Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jean, Jésus s'identifie lui-même à cet escalier. Il devient ce lien ultime, cette fameuse présence entre le ciel et la terre.
C'est vraiment une symétrie narrative incroyable. Si on résume un peu le parcours de cette exploration, on a vu comment une famille totalement déchirée par le mensonge et la haine a, ironiquement, pavé la voie à l'une des révélations les plus profondes de l'Antiquité.
La grâce divine qui court-circuite les magouilles humaines.
Exactement. C'est l'histoire d'un Dieu dont l'amour surpasse nos faiblesses pour accomplir son plan. Et pour ceux qui nous écoutent, il est crucial de se rappeler ça. La connaissance ou la foi qu'on reçoit en héritage, ça ne suffit pas.
Non, il arrive toujours un moment, comme pour Jacob dans ce désert sauvage, où l'on doit s'approprier personnellement ses convictions. Sans ça, ça ne tient pas la route face aux épreuves.
Absolument. Et je voudrais laisser tout le monde sur une dernière réflexion, un peu provocatrice. Pensez à cette fameuse pierre.
Ah, le rocher sous sa tête. Nom de Dieu.
Exactement. Alors, quels sont les cailloux inconfortables ou les situations d'exil apparents dans nos vies actuelles, ces choses qu'on déteste affronter? Pourraient-elles bien être, sans qu'on s'en rende compte, des portes déguisées vers une compréhension totalement nouvelle de nous-mêmes et du monde?
C'est une excellente question pour changer notre regard sur nos propres déserts.
De quoi bien réfléchir. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse. On se retrouve très vite pour poursuivre notre exploration. Gardez l'œil ouvert et à bientôt.